Léa Dunant-Châtelet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérante et responsable de la recherche ESG chez Sycomore Asset Management. On va parler de cette recherche et des petites et moyennes valeurs. C'est vrai qu'on va beaucoup parler en 2014 de ces valeurs. Jusqu'à aujourd'hui, on peut dire peut-être l'ESG, l'ISR, comme on veut, n'avait pas trop étudié ce type de segment.
Absolument. En fait, c'est un segment qui est déjà peu étudié par l'analyse financière, hein, classique. Si on regarde, les très grosses entreprises sont suivies par une trentaine d'analystes dans le monde. Et les toutes petites, un, deux, parfois plus, mais et parfois pas du tout. Et donc c'est un segment qui n'est pas couvert à la fois par les financiers classiques et alors encore moins effectivement du point de vue ESG, alors qu'il y a beaucoup de choses à regarder sur ces entreprises.
Alors, on est toujours peut-être sur des différenciations de segments, mais on peut dire qu'est-ce qu'on peut trouver à peu près sur le niveau européen? Il y a quoi, 400 valeurs un peu?
Ah oui, même plus que ça. Déjà en France, vous avez une profondeur de marché d'à peu près 200 entreprises, et en Europe, au moins 400, 500 entreprises. Oui.
On peut dire que ces sociétés-là ont fait des progrès, parce que quand on parle aujourd'hui de l'ESR, on parle d'abord de ESG, pardon, on parle d'abord du CAC 40, hein, clairement,
Absolument,
c'est.
ah oui. Au tout départ, effectivement, les grosses blue chips, même européennes, et le CAC 40 évidemment, étaient les premiers à communiquer sur ces sujets et avaient des équipes en interne pour le faire. Aujourd'hui, les petites entreprises communiquent d'abord parce qu'elles sont obligées de le faire. La loi Grenelle a imposé à tout le monde, avec des minimums d'employés, mais toutes les entreprises cotées publient des rapports. Ça, c'est un premier pas. Et surtout, en fait, ça fait partie de leur business model. Et ça a changé radicalement leur approche.
Alors, on a toujours dans ce domaine-là des questions sur le contenu de ces rapports. Est-ce qu'ils sont suffisamment détaillés, suffisamment précis pour l'investisseur? Est-ce qu'aujourd'hui, pour ces valeurs dites moyennes, on trouve justement des sujets intéressants et du contenu intéressant?
C'est une très bonne question. Moi, j'ai toujours coutume de dire qu'un rapport qui fait plus de 20 pages est inutile. C'est-à-dire qu'un rapport avec beaucoup d'images, c'est presque comme un magazine gala, ça n'a pas d'intérêt. En revanche, quand vous avez des indicateurs chiffrés, constants dans le temps, avec un historique assez raisonnable, là, on a tout un intérêt lorsqu'on est un investisseur. Et aujourd'hui, oui, vous avez 45 indicateurs obligatoires en environnement et en social. C'est déjà un nombre suffisant et tout communique à peu près sur l'ensemble des indicateurs.
Alors, on pourrait dire donc qu'elles sont à l'égal des grandes finalement dans ce qu'elles font. Qu'est-ce qui pourrait amener les investisseurs à s'y intéresser encore davantage sur cet aspect-là?
Alors justement, à l'égal des grands en termes de reporting, certainement, leur périmètre est plus facile en général. Par contre, il y a une grosse différence. Quand vous regardez les grands, en général, vous avez des fonctions dédiées, développement durable, communication. En fait, finalement, chez les petites, c'est souvent le directeur général ou le directeur financier qui est en charge. Et du coup, il fait le lien immédiat entre ces indicateurs-là et son activité quotidienne opérationnelle. Du coup, c'est extrêmement intéressant parce qu'ils vont avoir une approche d'économie de coûts, d'amélioration de leur croissance, de leur chiffre d'affaires, de gains de contrat, de parts de marché. C'est beaucoup plus dans leur cœur d'activité.
Alors, on dit souvent qu'effectivement, ce type de valeurs a peu d'analystes qui les suivent. C'est vrai que ça peut être un handicap pour certains gérants, on va dire, même qui suivent ces valeurs-là.
C'est fait.
C'est pas toujours facile. Au-delà de ça, ça veut dire que l'investisseur doit aller plus loin que finalement ces aspects-là et aller regarder ce qu'elles font dans ce domaine-là pour peut-être investir finalement dans ces valeurs moyennes.
Vous avez tout à fait raison. Un des aspects prioritaires de ces valeurs, c'est de rencontrer d'une part les dirigeants, qui sont assez disponibles et qui parlent très bien des valeurs, et d'aller sur site. Et on fait beaucoup de visites de site quand on est un gérant small et mid cap. Et sur l'ISR, par exemple, s'intéresser au climat social d'une entreprise, c'est un indicateur avancé de base. Mais si vous n'allez pas sur un site industriel, si vous n'allez pas visiter l'entreprise, vous n'aurez jamais cette information. Donc effectivement, le travail de terrain pallie quelque part l'absence d'analyse et de couverture des analystes classiques.
Alors, du côté de l'analyse, toujours, on a souvent des analyses sectorielles. Est-ce que du coup, une petite ou moyenne valeur peut être dans le même secteur qu'une grande et présenter donc de l'intérêt si vous faites aller au bout de cette analyse?
Alors ça va dépendre. Si on parle de pure player sur certaines activités, on aura du mal à les comparer à des très grandes parce que effectivement elles vont être sur un business bien précis et donc leurs drivers vont être beaucoup plus simplifiés. En revanche, sur des activités classiques, si je pense par exemple au retail, vous pouvez avoir vraiment toute taille d'entreprise ou même la pharmacie. Et là, à ce moment-là, on peut les comparer effectivement aux grandes très facilement.
Alors, par contre, peut-être ça va être plus difficile pour des jeunes, très jeunes entreprises, start-up ou des entreprises qui viennent comme ça en bourse dans les secteurs où elles n'ont pas pour l'instant de rentabilité. Ça va peut-être être plus difficile, même si elles ont cette vocation peut-être intéressante sur les critères effectivement ESG. Mais bon, là, il va y avoir quand même un risque à prendre en compte.
Alors, détrompez-vous, parce qu'en fait, certaines IPO aujourd'hui, justement, parlent dès l'introduction en bourse de ces critères à leurs investisseurs. Un très bon exemple, c'est ID Logistique, qui s'est introduit en bourse fin 2012, donc maintenant un peu plus d'un an. C'est une entreprise qui a mis au cœur de son activité le développement durable, c'est-à-dire être capable de positionner les entrepôts de logistique le mieux possible pour optimiser les flux, limiter l'impact sur l'environnement, limiter les coûts de leurs clients. Et cette entreprise-là, elle a expliqué dès son introduction en bourse que son business model tournait autour de ça. Et la société avait des rapports chiffrés et des factures pour ses clients qui intégraient le bilan carbone et l'économie de coûts. Elle a fait plus de 150% depuis l'introduction. Donc c'est une success story avec en plus, dès le départ, une dimension ESG très forte.
Donc quelque part aujourd'hui, ce sera peut-être le mot de la fin, quand on a cette analyse avec ces critères-là, ne pas rester que sur les grandes valeurs, celles qui effectivement sont peut-être les plus connues, mais aller chercher aussi du côté de ces PME ETI, comme on dit aujourd'hui, peut-être des pépites et surtout des valeurs qui présentent ce type d'intérêt.
Absolument. Et in fine, pour nos clients investisseurs, de la performance, parce que ce sont ces valeurs qui ont des drivers de croissance forts et qui sont de bons performeurs en général dans les portefeuilles. Et notre portefeuille, c'est Sycomore Sélection Responsable, a une excellente performance sur 3 ans, plus de 35%, avec de très grands contributeurs dans ces petites et moyennes valeurs. Oui.